Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on plonge dans notre cerveau. Bonjour Laurent Vercueil. Bienvenue.
Bonjour. Alors votre micro n'est pas allumé.
Mais voilà, bonjour, le bonjour est passé. Merci André Facetta, notre réalisateur ultra talentueux. Que ça lui arrive, il a le droit d'avoir une micro-absence. Vous êtes neurologue, Laurent Vercueil. Et vous allez nous aider à comprendre ces petits tracas du quotidien. Tiens, par exemple, ce bruit très désagréable. Alors, pardon à tout le monde, aux auditeurs, parce que c'est vraiment insupportable. C'est le bruit de la craie sur le tableau noir. Laurent Vercueil, qu'est-ce qui rend un bruit insupportable ?
Alors, c'est souvent une résonance affective, une résonance émotionnelle. Ça peut être mesuré. Hein. Il y a des études qui ont été pratiquées, notamment à l'aide de l'imagerie fonctionnelle, et qui ont montré que ce type de bruit suscitait des réponses, notamment au niveau de l'amygdale, qui est une région qui va commander tout ce qui est mouvement aversif. Aversif, c'est-à-dire de retrait,
de rejet. Mais voilà. C'est pas seulement lié à, je sais rien, c'est à une fréquence. Est-ce que les sons plus aigus sont plus désagréables que les sons
Alors,
plus...
au début, on a pensé ça assez longtemps. On pensait que c'était plutôt des sons aigus. Mm-hmm. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, notamment en traitant de manière digitale ces sons, que, en fait, non, c'était plutôt des fréquences assez moyennes qui vont susciter ce genre de réponse. Et notamment, peut-être.
Ton bruit insupportable.
Alors, il y a des bruits qui sont quand même généralement mal supportés. Et puis, chacun a un petit peu son profil propre, sa signature, on va
c'est,
dire.
C'est quoi votre
Alors,
bruit tabou
supporte pas le polystyrène qui est sorti des cartons. Vous savez, quand on déballe...
Oui, c'est désagréable aussi, ça.
Oh là là, moi, c'est quelque chose qui me fait tout de suite
des frissons.
Moi, c'est
les paquets de biscottes qu'on ouvre pendant 10 minutes, là. J'ai envie de tout balancer.
Bon, bah, allez, on a plein de petits tracas du quotidien. Ah non, ça suffit, André, c'est pas possible.
Ah, il y a aussi les chatouilles. Les mamouettes.
Le hockey.
Bah oui. On explique ces petits tracas du quotidien. Allez, tout de suite, on en saura plus sur notre cerveau et le vôtre.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut. Vous écoutez RTL. Première radio de France. Curiosité est un vilain défaut.
On a tous en nous quelque chose de fascinant. L'élément le plus complexe de l'univers, c'est notre cerveau.
RTL.
Tu me chatouilles. Arrête les chatouilles. Je supporte pas qu'on me chatouille.
Peut-on vraiment se fier à son cerveau ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Balou dans le livre de la jungle qui subit des chatouilles, évidemment, on a tous ce souvenir en tête. Alors moi, je vous raconterai pas exactement dans quelles circonstances, mais je me suis demandé récemment...
Ah non, on veut pas savoir.
Mais pourquoi suis-je chatouilleux et pourquoi dans cette partie du corps ? Laurent Vercueil, je rappelle que vous êtes neurologue au CHU de Grenoble. C'est quoi les zones du corps les plus sensibles aux chatouilles ?
Alors c'est très intéressant parce que c'est pas du tout les zones les plus sensibles tout court. Oui. C'est-à-dire qu'on a au niveau de la peau des récepteurs, alors de très nombreux récepteurs, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais ces récepteurs sont là surtout d'une part pour nous alerter vis-à-vis des dangers, hein, une douleur signale un risque de lésion, une chaleur, etc. Ou surtout pour explorer l'environnement. Hein, ça c'est la sensibilité un petit peu visuelle. Or ces récepteurs qui sont très denses au niveau des extrémités par exemple,
oui, c'est par pas exemple, du tout le bout des doigts.
Le bout des doigts typiquement, hein, les mains, les doigts. Ouais. C'est pas du tout les zones les plus chatouilleuses. Les zones les plus chatouilleuses, ce ne sont pas du tout celles où il y a la plus
Alors
grande
quoi,
densité de récepteurs.
Les aisselles.
Voilà, les aisselles, le pli du cou. On sait que les
la
enfants
plante,
sont très chatouilleux. La plante des pieds. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout des zones qui sont là pour explorer. Il y a autre chose qui est en jeu. Et cette autre chose qui est en jeu, c'est le cerveau émotionnel. C'est
ça
le
veut
cerveau
dire quoi
des émotions.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des aisselles et de la plante des pieds quand on nous chatouille ?
Alors, en fait, c'est des zones qui sont relativement vulnérables. Ce sont des zones qui sont plutôt cachées, hein, qui sont dans les plis, qui sont cachées. Et si on regarde un animal à quatre pattes, c'est les zones ventrales, on va dire. Alors nous, on est redressés, on est bipèdes, on est debout. Ce sont des zones qui pourraient être sous nous si on était à quatre pattes. Donc ce sont des zones, en fait, où on risque des blessures. Du coup, lorsqu'on a un geste qui est dirigé vers ces zones-là, il y a potentiellement
une forme de défense,
un danger.
Quoi. Oui, d'accord.
Voilà.
Mais donc ça veut dire que ça remonte au temps où on était encore à quatre pattes, si je vous suis bien d'une certaine façon.
Alors il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que ce sont effectivement une façon de réagir émotionnellement à des zones qui sont potentiellement vulnérables. Alors maintenant, on est dans un contexte particulier quand on se fait chatouiller, hein, et c'est plutôt positif a priori.
Bah oui.
Donc le signal qui arrive, qui est le signal émotionnel du rire, n'est pas un signal agressif, c'est au contraire une manière de dire à l'autre, tu vois, je ne t'attaque pas.
Alors comme j'ai l'impression que Thomas passe beaucoup de bon temps avec ses chatouilles, moi j'ai essayé aujourd'hui de me chatouiller toute seule. Mais j'ai rien ressenti. Est-ce que ça, c'est normal ?
Chacun son truc.
On peut se chatouiller. Pourquoi on ne peut pas se chatouiller ?
Alors,
soi-même
oui, effectivement, on ne peut pas se faire rire en se chatouillant soi-même. Notamment parce qu'il manque un effet qui est très, très important, qui est l'effet de surprise.
Ah ben oui.
C'est-à-dire que dès qu'on pilote un mouvement, le cerveau nous informe en continu de la position des doigts. Et donc, les contacts sont en fait prédit. On sait très bien ce qu'on va ressentir. Et si l'effet surprise disparaît, l'effet émotion disparaît. Et il n'y a aucune raison de rire lorsqu'on se chatouille, bien sûr.
Alors, Laurent Vercueil, vous publiez Chatouille et autres petits tracas neurologiques, c'est aux éditions. Belin, vous expliquez que le cerveau fonctionne, c'est ce que vous étiez en train d'évoquer d'ailleurs, comme une machine à prédire ce qui va se passer. Comment ça marche ?
Ben, c'est très important parce qu'en fait, si vous voulez, le cerveau humain, hein, c'est un empilement de traitements d'informations. C'est-à-dire, par rapport au cerveau d'un insecte ou un cerveau très ancien, très limité, qui en fait est un espèce de cerveau un petit peu réflexe, hein, on a empilé des couches et des couches et des couches d'informations, de traitements d'informations. De sorte qu'à la fin, la complexité étant de plus en plus importante, on perd beaucoup de temps à faire ce traitement d'information. Et en gros, par rapport à la réalité physique qui nous entoure, notre perception, notre représentation mentale a un décalage qui a été estimé par les psychophysiologues d'environ une demi-seconde.
Donc notre cerveau, il est tout en retard.
Tout en retard. Ça, c'est... C'est inévitable, ça. Parce qu'on a trop de choses à mouliner, on a trop de choses à brasser. Lorsqu'on voit une scène, il y a le sens que ça a, les couleurs, etc. Enfin, tout ça fait que, du coup, la seule façon de s'en sortir, c'est de compenser en anticipant, en prédisant ce qui va se passer. Et il est très très fort pour ça, il est très doué.
C'est l'expérience qui permet aussi d'anticiper.
C'est l'expérience, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. C'est ce qui se passe dès le nourrisson. Le nourrisson, petit à petit, en faisant ses expériences motrices, en bougeant, se rend compte des effets que ça a. Et il va anticiper petit à petit, il va être capable de prédire ce qui va se passer s'il fait un geste.
Mais pour boucler sur les chatouilles, est-ce que c'est réservé aux humains ? Ou est-ce qu'il y a des...
Non.
On avait la scène de Balou, alors, donc on imagine que les grands sages...
Non, c'est pas réservé aux humains. On a tous gratouillé un chien couché sur le ventre,
c'est vrai,
qui s'agite, qui exprime du plaisir.
Il a assez peu ri. Quand même, le chien.
Il halète. Hein. Lorsqu'il halète, il monte les dents et en gros, son comportement, ça signifie je ne t'attaque pas, tu es mon ami, je te présente mes zones vulnérables. En l'occurrence, il est couché sur le dos, il monte son ventre et il se laisse frotter en remuant la queue. C'est vraiment un comportement amical. Il signale son amitié. Mmh. Alors, l'an dernier, il y avait une étude qui était assez intéressante, qui était une étude sur les rats et qui montrait que les rats, non seulement exprimaient des petits cris ultrasonores en réponse aux chatouilles, mais en plus, allaient chercher la main d'expérimentateur pour avoir des chatouilles.
Et ben voilà, chatouillez vos rats. Moralité, vous rougissez souvent, vous avez les mains moites, c'est de la faute de votre hypothalamus. Mais c'est quoi au juste l'hypothalamus ?
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes.
RTL. Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL.
On découvre ce que notre corps nous apprend sur notre cerveau grâce au neurologue Laurent Vercueil. Alors on parlait tout à l'heure des chatouilles si bénéfiques au quotidien de Thomas Hugues et à tant d'autres. Et aux rats aussi. Chatouillez vos rats, nous disait Thomas. Et vos chiens. Allez, autre sensation moins agréable parce qu'elle révèle nos émotions, on n'aime pas toujours ça. C'est le fait de rougir ou d'avoir les mains moites. Comment se fait cette réaction ?
Effectivement, encore, on est à nouveau sur le cerveau des émotions. Et c'est l'occasion de parler d'hypothalamus, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une région très particulière du cerveau parce qu'elle va connecter à la fois ce que Jean-Didier Vincent appelait le cerveau hormonal, le cerveau flou, c'est-à-dire les réactions hormonales, ce qui va être véhiculé dans le sang, et ce qui est connecté, ce qu'on imagine plus facilement, ce qu'on pense au cerveau, c'est-à-dire des câbles qui se communiquent entre eux. Et ce qui est connecté dans l'hypothalamus, c'est le système nerveux autonome, c'est-à-dire un truc qui contrôle la vie automatique du corps.
Alors, par exemple, pour le rougissement, quand les gens rougissent, qu'est-ce qui se passe entre le moment où la personne entend quelque chose qui l'émeut et cette couleur rouge sur les joues ?
Voilà, alors directement, les régions à nouveau émotionnelles, en particulier, je vais reparler un petit peu de l'amygdale, vont aller transmettre le message à l'hypothalamus qui va gérer ça. Et l'hypothalamus, il va donner l'ordre, donc, via le système nerveux autonome, mais pas que, via aussi des modifications hormonales. Alors, au vaisseau sanguin de se dilater un petit peu en surface, c'est ça qui va donner la rougeur, et puis aux glandes sudorales de produire la sueur.
Mais c'est une manière de dire à son adversaire ou son interlocuteur, attention, regarde, tu m'as touché, ça sert à ça ?
Exactement, oui, c'est un signal social, c'est aussi une façon de manifester un état émotionnel. Et c'est un signal qui, en fait, probablement préexistait à l'élaboration du langage, c'est-à-dire qu'avant d'avoir du langage pour communiquer, on communiquait notamment grâce à ces signaux non-verbaux, qui sont des signaux qui vont transmettre un état émotionnel. Et la société repose aussi sur cette transmission d'état émotionnel. Si on comprend dans quel état émotionnel je suis, on peut mieux expliquer ce que je suis en train de faire, éventuellement intervenir.
Et les mains moites, parce que ça peut être assez handicapant, le terme est un peu fort, mais c'est quand même assez gênant socialement. Est-ce que là aussi c'est permanent ou est-ce que c'est lié à une émotion à un moment particulier ?
Alors, ça peut être extrêmement lié. lié à une émotion, bien sûr. Hein, c'est quelque chose qui va être activé via ce réseau-là dont je parlais. Ouais. Mais il y a aussi une ouverture régulière. Hein, c'est-à-dire qu'on a régulièrement une sudation au niveau de la paume des mains qui va périodiquement se mettre en place indépendamment de toute émotion. Donc, si vous voulez, on a deux choses. On a un système nerveux automatique, autonome, hein, qui règle cette vie automatique, battement du cœur, respiration, qui se fait tout seul.
Et qui produit de la sueur.
Et qui produit de la sueur.
Jusqu'à combien de, je sais pas, par jour? Alors, ça produit
c'est,
combien?
C'est plusieurs litres de sueur par jour, hein, c'est important. Ah et oui. la sueur aussi est quelque chose de salé, donc ça peut être aussi une source de perte de sel, hein. Mm-hmm. Donc ça peut être assez important. Et, sur ce système autonome, il y a une couche d'émotions qui va aller intervenir et de temps en temps entraîner un ordre direct avec une expression émotionnelle.
Laurent Vercueil, vous publiez Chatouille et autres petits tracas neurologiques, c'est chez Belin et vous parlez du hockey. Alors si j'applique votre technique, je me dis bon, le hockey ça doit servir forcément à quelque chose, bah, j'arrive pas à voir.
Comment c'est ça juste, se produit, c'est juste énervant quoi.
Ouais, c'est vrai.
Alors c'est effectivement très désagréable, hein. Le plus souvent ça s'arrête assez rapidement, parfois ça persiste, ce qui peut poser des problèmes notamment d'épuisement ou d'énervement colossal. À quoi ça sert? On ne sait pas trop. Il y a l'hypothèse un petit peu qui a le plus tenu la route jusqu'à présent, c'est l'idée que c'est un peu l'équivalent de la toux, mais pour le système digestif. Pourquoi ? Parce que, en gros, le hoquet est provoqué lorsqu'il y a, par exemple, une dilatation gastrique un petit peu trop rapide. Typiquement, je bois trop vite, je mange trop vite, tac, ça déclenche le hoquet. Et c'est un peu comme si c'était un réflexe qui permettait d'expulser quelque chose qui prend un peu trop de place dans le système digestif, comme la toux essaie d'expulser quelque chose qui prend trop de place dans le système aérien.
Donc, vous essayez de bien l'accueillir, ce hoquet.
On peut l'accueillir,
ouais, hein, mais on cherche tous à s'en débarrasser. On a tous un truc, alors boire à l'envers, etc., etc. Et alors, page 117 de votre livre, je trouve un bon truc hein, proposé par un Canadien dont le hoquet persistait depuis déjà 4 jours. Qu'est-ce qu'il a fait ?
Alors oui, c'est un Canadien qui, le pauvre, était absolument épuisé. Il avait quand même encore un tout petit peu d'énergie parce qu'il arrivait à faire l'amour avec sa femme. Et au moment de l'orgasme, son hoquet disparaît, alors que vraiment il avait été épuisé les jours précédents. Alors c'était rapporté dans les littératures médicales tout à fait sérieuses, hein, ouais. Et on peut penser que c'est pas complètement farfelu, hein, cette histoire, d'abord parce qu'il y a eu d'autres cas hein, signalés, et puis aussi parce que en fait la plupart des manœuvres qu'on connaît pour faire supprimer le hoquet passent par l'activation du système vagal, c'est-à-dire par exemple vous savez l'épreuve de poussée respiratoire très forte, ça active le système vagal, et c'est un peu aussi ce qui se passe au moment de l'orgasme, il y a une activation vagale.
Bon bah voilà un truc super sympa.
Je vais arrêter de boire à l'envers de l'eau et m'en mettre partout. Alors c'est débile.
Parfois, juste après l'amour, on fait quoi ? On s'endort. Enfin, surtout les hommes, il paraît. Et puis là, il y a une autre forme de secousse qui nous réveille. Vous savez, cette sensation-là, quand on tombe dans le vide, ou qu'on reçoit un coup de pied, etc. Mais c'est quoi ça ? Réponse tout de suite.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le cerveau représente seulement 2% de notre masse corporelle.
RTL.
Pourtant, il consomme un quart de notre énergie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des éternuements dans un air d'opéra, l'air de Lazuli, signé Emmanuel Chabrier. Des éternuements aussi dans le livre de notre invité Laurent Vercueil, Chatouille et autres petits tracas neurologiques. C'est publié chez Belin. Et puis, donc, ce dont je parlais juste avant la pause, ce moment où on s'endort. Et, mais alors vraiment, on a le sentiment que c'est dans les 10 secondes qui suivent l'endormissement. Là, moi, souvent, j'ai l'impression de prendre quelque chose, un objet qui arrive, un ballon de foot ou quelque chose qui me fracasse le crâne. Et là, ça me réveille.
Oui, moi, je tombe d'une falaise.
Voilà, on a chacun le sien. C'est quoi ça ?
Alors, chacun a effectivement son explication. Et souvent, c'est assez robuste. C'est-à-dire que chaque fois, c'est un peu la même chose qui se passe. Hein. Ma femme, elle trébuche chaque fois qu'elle a une secousse. Elle en a pas mal. Alors, du coup, je passe des nuits difficiles.
Oh mon pauvre.
C'est quoi ? C'est moi, j'appelle ça le sursaut du premier sommeil.
C'est exactement ça, en fait. Ouais. Hein, ça s'appelle des myoclonies d'endormissement, sursaut du premier sommeil. Ouais. Les Anglais disent sleep starts, donc c'est le côté un peu sursaut. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est banal, hein, qui est vraiment... faut pas inquiéter les auditeurs. Tout le monde peut avoir ça pour peu que la journée ait été un peu dense, qu'on ait fatigué, et que le sommeil arrive un peu brutalement. Et probablement, c'est du fait de sa brutalité que certains mécanismes d'installation du sommeil vont être un peu décalés et qu'il va y avoir ces grandes secousses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la sensation qu'on va en avoir, c'est quelque chose qui va être construit par le cerveau derrière, et c'est une explication qu'il va réintroduire chaque fois parce que ça marche bien. Du moment qu'il y a un grand mouvement, il se dit je tombe, ou je trébuche, ou je reçois un coup de poing dans la figure.
Donc, si je vous dis bien, c'est lié à la fatigue. Si ça nous arrive, c'est en général qu'on a une journée
souvent,
un peu rude.
C'est souvent des journées bien chargées, bien denses, et un sommeil qui arrive un peu rapidement, hein, c'est-à-dire il y a ce côté un peu d'endormissement un peu rapide, ouais. Et qui malheureusement va être interrompu, hein, au moment de la secousse.
Et parfois on a du mal à s'endormir du coup.
Oui.
Moi, il y a un truc qui m'arrive souvent, c'est ce fameux effet de déjà-vu. Ah oui. C'est que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et tout d'un coup, au milieu de la conversation, vous dites « Mais attends, j'ai déjà vécu ça. Cette personne, cette conversation, ah, c'est sûr. »
Cette
vous
scène cherchez... avec les détails,
oui,
etc.
Oui, et vous cherchez dans votre mémoire à quel moment vous avez pu vivre ça. Ça vient d'où, cet effet de déjà-vu? Est-ce qu'on a tous ça?
Alors, effectivement, beaucoup de gens, alors tous, pas vraiment, hein, mais c'est vraiment 75-80% des gens qui ont déjà eu des épisodes de déjà-vu, pour le dire. C'est quelque chose qui a été remarqué depuis très très longtemps, puisque Pythagore avait même une théorie du déjà-vu. Hein. Il disait que c'était la preuve que ce qu'on voit devant nous, le monde tel qu'il existe, c'est déjà produit de la même façon, et que c'est la répétition, le retour de...
La réincarnation,
exactement.
Mais c'est pas un chercheur ou un médecin français qui l'a identifié, détaillé, parce que en anglais, on dit le déjà-vu.
On dit le déjà-vu, ou un déjà-vu.
Oui, déjà-vu, oui.
C'est pratique pour la traduction, nous,
voilà,
ça nous arrange.
Ils ont pas mal de langues, on emploie le terme français.
C'est au 19e siècle que Émile Boirac a utilisé le premier, le terme de déjà-vu, qui dit bien ce que ça veut dire. Donc ça a été adopté effectivement très largement.
Quel tour nous joue notre cerveau alors quand on a cette impression de déjà-vu?
Alors l'explication d'aujourd'hui, elle n'est plus du tout externaliste. C'est-à-dire qu'on ne pense plus que c'est le monde qui se répète tel qu'à l'extérieur. Mmh. C'est vraiment dans notre tête que ça se passe. Et on pense, et notamment grâce aux travaux qui ont été faits chez les sujets, qui eux avaient des déjà-vus anormaux, d'origine épileptique, c'est-à-dire liés à des petites décharges localisées dans le cerveau, notamment suite aux crises d'épilepsie temporale, qu'il y avait une petite région qui s'appelle le cortex entorhinal qui va nous donner le sentiment de nouveauté. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qui se déroule devant nous, est accompagné d'un petit signal qui nous dit tout ça c'est nouveau. Et s'il y a un petit décalage de ce signal, ou s'il manque, on n'aura pas cette impression de nouveauté. C'est pas nouveau ce que je vois. Et si c'est pas nouveau, notre cerveau il en déduit que c'est que je l'ai déjà vu.
Ah, c'est incroyable. D'accord. Donc c'est une petite déficience quand même quelque part que vous décrivez. C'est comme j'en ai souvent, je commence à m'inquiéter un petit peu.
Non, c'est pas vraiment une déficience, c'est un petit décalage.
Tout va bien.
Si vous voulez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le cerveau a besoin de combiner un petit peu toutes ces informations. Et cette combinaison, elle peut être extrêmement précise, vous voyez, à l'instant près. Et s'il y a un petit décalage de cette combinaison et qu'il manque un tout petit signal dans l'espèce de couplage énorme qu'on doit faire avec toutes les informations, on n'a pas cette information-là, que c'est nouveau.
Ça y est, j'ai compris.
Voilà, on a tout compris grâce à vous. Merci beaucoup Laurent Vercueil. Chatouille et autres petits tracas neurologiques, c'est donc publié chez Belin. J'ai découvert aussi que le cerveau était insensible à la douleur. Voilà une autre info passionnante à découvrir dans votre livre. Merci et à bientôt.
À bientôt.
Merci.
Vous écoutez RTL.